Très bon réveil avec France Culture. Jusqu'à 7h, les petits matins. Tout de suite, les titres de l'actualité. Adrien Taufollet.
Bonjour à tous. La France se réveille reconfinée ce matin avec un dispositif moins contraignant que pendant la première vague, détaillé hier par Jean Castex. Déplacement réduit avec dérogation pour certaines exceptions, travail, école, courses de première nécessité, aide à un proche, promenade et activités sportives d'une heure, enterrement dans la limite de 30 personnes, mariage 6 personnes maximum. Impossible de sortir sans les attestations auxquelles s'ajoute l'attestation employeur pour aller au travail, l'attestation scolaire pour accompagner les enfants à l'école. L'amende est toujours de 135 euros en cas de non-présentation. Par ailleurs, à l'école, un nouveau protocole sanitaire renforcé sera mis en place, comme au printemps. Étalement des arrivées le matin, déplacement limité au maximum dans les couloirs, des récréations par petits groupes, renforcement du nettoyage. Le port du masque à partir de l'âge de 6 ans devient obligatoire. Le SNEFS-FSU, syndicat majoritaire dans le secondaire, dénonce un protocole peu sécurisé. Alors que la situation sanitaire est grave, un préavis de grève pour la semaine de la rentrée est déposé à la disposition des enseignants qui ne se sentiraient pas suffisamment protégés. Pour ce qui est de l'économie, le télétravail n'est pas une option, a précisé hier la ministre du Travail Elisabeth Borne. Ce sera inscrit dans une nouvelle version du protocole national en entreprise. De façon générale, à cause du reconfinement, l'activité va chuter de 15% après avoir plongé de 30% lors du premier confinement. En soutien, le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce notamment le renforcement du fonds de solidarité pour les entreprises obligées de fermer. Les nouvelles mesures de soutien s'élèveront à 15 milliards d'euros par mois. Au lendemain de l'attaque terroriste de Nice qui a fait 3 morts à l'église Notre-Dame, on en sait plus ce matin sur son auteur présumé. Un Tunisien de 21 ans arrivé en France en début octobre après être passé par l'île italienne de Lampedusa. Détail donné hier par le procureur antiterroriste chargé de l'enquête. L'homme n'avait pas été fiché par le renseignement italien. Il était également inconnu des services de renseignement français. C'est la France qui est attaquée, mais nous ne cédons rien, a réagi Emmanuel Macron hier en annonçant le déploiement de 7000 soldats de l'opération Sentinelle partout en France contre 3000 actuellement. Il présidera ce matin un nouveau conseil de défense et promet de nouvelles mesures contre le terrorisme.
L'élection américaine, un enjeu mondial. Sur France Culture, une programmation exceptionnelle consacrée à l'événement.
This guy will close down the whole country.
Everybody knows he's a liar.
Reportage, rendez-vous de la rédaction de France Culture. Magazine, toutes les disciplines au rendez-vous. Documentaires et podcasts. Portrait des États-Unis d'aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle, et le 3 novembre, une nuit américaine, pour suivre en direct la progression et l'analyse du scrutin. L'élection américaine, un enjeu mondial, sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Musique vous offre un bouquet de 9 web radios. Classique, jazz, musique de film. Avec la toute dernière née, opéra, entrez dans l'univers magique du chant, des histoires passionnées. Carmen, La Traviata, Tosca. Opéra à écouter gratuitement sur francemusique.fr et l'application Radio France.
Il est 6h passé de 3 minutes. Bon réveil à l'écoute de France Culture. Tout de suite, le temps du monde vivant avec Bruno David. Et le thème, ce matin, le narval, un escrimeur.
La corne de licorne a complètement fasciné les Occidentaux et se vendait très cher. Cela vaut bien une explication. En provenance d'Europe du Nord, les cornes de licorne valaient plus que de l'or. En 1576, Élisabeth Ière d'Angleterre en aurait payé une 10 000 livres, soit le prix d'un château de l'époque. Ces cornes avaient en outre la réputation de neutraliser les poisons. On y taillait de petits verres, assurance vie contre les empoisonneurs. Au XVIIIe siècle, elle fut identifiée comme une incisive supérieure gauche de narval, Monodon monoceros, cétacé de l'océan Arctique. Les scientifiques se sont alors demandé à quoi pouvait bien servir cette dent aberrante. Rappelons d'abord sa taille. Sa longueur chez le mâle est supérieure à 2 mètres. Chez la femelle, elle reste dans le maxillaire et n'excède pas 15 cm. Dans un cas sur 500, les deux incisives, droite et gauche, croissent, ce qui donne un narval à 2 dents. La Cépède, naturaliste au Muséum national d'histoire naturelle, écrivait en 1804 « Et dès lors, quel habitant des mers pourrait ne pas craindre le narval ? Non seulement avec ses dents il fait des blessures mortelles, mais il atteint son ennemi d'assez loin pour n'avoir à redouter aucune arme. » Mais s'agit-il vraiment d'une arme ? Oui, on a retrouvé plusieurs spécimens blessés avec des morceaux de dents fichés dans la mâchoire ou dans la peau. des combats entre mâles ont été observés et ils provoquent estafilades et blessures. En revanche, lorsqu'ils se déplacent en groupe de quelques dizaines d'individus, chaque narval pose sa dent sur le dos du congénère qui nage devant lui, évitant de le blesser. L'analyse anatomique de la dent indique qu'elle est creuse et abrite un nerf connecté au cerveau. Sa couche superficielle laisse passer des pores reliés à la pulpe centrale. Cette dent est aujourd'hui interprétée comme un organe sensoriel qui capte la salinité, la température, les variations de pression et sert à la détection des hormones femelles. La torsade de la dent augmente la surface de contact avec l'eau de mer et donc l'efficacité du système. En outre, des chercheurs ont observé des narvals en train de frapper des poissons à l'aide de leurs dents avant de les consommer. Voilà donc un organe multifonction, antenne hydrographique, arme, outil de pêche à la matraque. La leçon inattendue de la corne de licorne, c'est qu'un organe, aussi étrange soit-il, peut servir à plusieurs tâches. Avant de quitter le narval et sa gigantesque dent, il reste une question. Au fait, seuls les mâles l'ont. Comment font les femelles alors ? Comme le narval est un mammifère social, et plutôt bien élevé, les femelles laisseraient aux mâles le soin d'explorer l'environnement et de chasser. D'accord ? Il n'en demeure pas moins que bien que la corne soit un attribut mâle servant au combat, la licorne médiévale est associée à la virginité et la féminité, d'où les représentations de dame à la licorne et jeune fille à la licorne. Encore un paradoxe, biologico-culturel.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, notre semaine consacrée à l'Amérique, ou plus exactement à notre rapport à la culture américaine continue. Et ce matin, on va parler du dernier Lucky Luke qui est sorti cette semaine. Un cowboy dans le coton. Cette fois, l'homme qui tire plus vite que son ombre partage la couverture avec un collègue noir. On les aperçoit tous les deux, main dans la main, chacun tenant un colt, très inquiet, dans un champ de coton. Et plus loin, on aperçoit quelques cagoules du Ku Klux Klan. Certains tenant des torches. Un Lucky Luke bien de son époque, dessiné par HD, d'après un scénario de Jules, notre invité ce matin. Bonjour Jules.
Bonjour.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Un shérif noir dans le Far West, l'alter ego de Lucky Luke dans ce dernier album a bel et bien existé. Son nom, Bass Reeves, premier noir nommé Marshall adjoint à l'ouest du Mississippi. Et on apprend d'ailleurs à la fin de cette aventure de Lucky Luke que 25% des shérifs étaient noirs à l'époque et qu'il y avait d'ailleurs beaucoup d'hispaniques. Donc on est loin, très loin du prototype nourri par Hollywood du cowboy blanc.
Voilà, c'est ça, vous disiez shérif, c'est plutôt cow-boy. C'était un métier de prolétaire, de sous-prolétaire, avec payé $1 par jour. Alors vous imaginez bien que c'était des gens qui pouvaient rien faire d'autre, qui faisaient ce job-là. Donc le John Wayne, c'est vraiment une façon d'avoir repeint en blanc la légende du Far West. Et là, on redonne...
Le white face.
Voilà, c'est ça, on redonne une espèce de réalité à cette histoire des cow-boys noirs, qui est passionnante en fait, mais qui m'a aussi stupéfié. Parce qu'en fait... Quand on a commencé à travailler sur un cow-boy dans le coton, on voulait juste faire voyager Lucky Luke dans un endroit où il n'était jamais allé. C'est ça qui est difficile quand on reprend Lucky Luke. Il y a eu tellement d'albums, plus de 70 ans de création. Il faut faire quelque chose de complètement nouveau et surprenant en restant dans les codes américains. Et la Louisiane, le Bayou, le monde des plantations de coton, des grands planteurs et ce monde de l'esclavage, on ne l'avait jamais vu.
Peut-être en remontant le Mississippi.
Alors, en remontant le Mississippi, il y avait des Noirs qui apparaissaient un petit peu comme des silhouettes, des figurants très stéréotypés et puis qui n'avaient pas vraiment de rôle. Et là, pour la première fois dans l'histoire de toute la série, eh ben en fait, les Noirs ont des rôles de premier plan et Lucky Luke affronte cette question. C'était bizarre quand même qu'il traverse l'histoire des États-Unis sans jamais parler de la guerre de sécession, sans jamais parler de ce monde d'après l'abolition de l'esclavage, qui est extrêmement terrible. Et c'était ça qui était difficile, sans doute. Rester une comédie et en même temps être dans l'ADN de la comédie d'action tout public pour les enfants, pour les adultes, ça c'est Lucky Luke. Et en même temps, affronter quelque chose qui est de l'ordre du crime contre l'humanité. Je me suis posé probablement peut-être les mêmes questions qu'un Roberto Benigni quand il faisait sa comédie sur la Shoah avec La vie est belle. Comment ne pas édulcorer? comment être intègre par rapport à cette histoire, être digne par rapport à cette histoire de mort, de terreur, qui a des échos jusqu'à aujourd'hui, on en parle toute la semaine sur l'antenne, et en même temps, garder cette gaieté. Donc il a fallu trouver plein de stratagèmes, et le personnage que vous évoquez, Bass Reeves, sur cette réelle légende noire de l'Ouest, elle a permis justement de servir de guide à la fois pour nous, le lecteur, et pour Lucky Luke, qui s'aventure dans des terrains vraiment minés.
Je n'en avais jamais entendu parler.
Oui, c'est assez peu connu. Il se trouve qu'aux États-Unis, ça y est, cette figure commence à émerger. La série Watchmen lui a consacré aussi une partie de son travail. Morgan Freeman, l'acteur et réalisateur, travaille sur un biopic de Bass Reeves. Mais c'est vrai que pour nous, on est resté à cette image du cow-boy. De toute façon, Lucky Luke, c'est notre patrimoine européen et mondial, mais il n'y a pas tellement d'impact aux États-Unis. Il est assez peu connu. Il est connu partout. C'est une star en Iran, en Turquie, dans toute l'Europe. Donc, ce qu'on véhicule des États-Unis dans Lucky Luke, et particulièrement dans Un cow-boy dans le coton, c'est l'image que nous, on entretient avec l'Amérique. Et précisément, c'est passionnant à un moment où justement le mouvement Black Lives Matter, qui existait déjà aux États-Unis, qui est porté à son incandescence dans cette période électorale, et puis avec tous ces drames qui se sont succédés, eh ben Black Lives Matter, on n'en avait jamais autant parlé en Europe, en France. Et on voit bien qu'il y a plein d'échos avec la représentation des Noirs, l'invisibilisation et cette mémoire de l'esclavage qu'on a tous. Parce qu'en fait, les États-Unis, ils sont pas tout seuls sur la planète. C'est vraiment le commerce triangulaire. C'est une triangulation qui continue aujourd'hui encore à faire des échos avec nous. Et donc, Un cow-boy dans le coton, c'est cette aventure-là, en Louisiane, dans les plantations. Mais ça parle beaucoup de nous, évidemment, parce que ce cow-boy franco-belge, c'est un peu notre miroir et notre ambassadeur.
On a vraiment l'impression, en lisant cette aventure, que vous aviez deviné que ça allait être le sujet de l'heure, hein, parce que il y a quelques passages où l'actualité ne fait pas seulement que résonner. On a l'impression que c'est presque avec le recul dans le temps, mais aussi le recul avec l'humour que nécessite une série comme Lucky Luke, une manière de parler de tout ce qu'on a vécu depuis la triste affaire de George Floyd.
Oui, c'est souvent, comme souvent avec les dessinateurs d'humour, un petit peu prémonitoire. On a toujours un sixième sens pour sentir l'air du temps, quelque chose qui est en devenir dans la société. Et c'est vrai que cet album, il arrive maintenant, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, de manière presque providentielle. On en a besoin de cet album. Et on en a besoin aussi pour sortir de quelque chose.
Enfin, quand vous dites presque providentielle, vous savez bien, Jules, que ce problème avec les années Trump est revenu dans l'actualité, hélas, de l'Amérique et du reste du monde, d'ailleurs.
C'est sans doute ce qui m'a donné envie de faire ces recherches et de dénicher finalement ce sujet. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en a besoin de cet album en France? C'est parce qu'on est, et c'est pas seulement sur ce sujet des inégalités raciales, de la représentation des Noirs, de la mémoire de l'esclavage, c'est la société dans l'ensemble est extrêmement fracturée. Et on voit dans des drames comme l'assassinat islamiste de Samuel Paty, que la société qui devrait faire bloc, en fait, n'est que fragment, n'est que douleur, et c'est vertigineux pour un auteur.
Ou alors qu'elle est terrorisée, accablée.
Et qu'elle est terrorisée, et qu'elle se divise, et en fin de compte, les débats sur la déprogrammation d'Autant en emporte le vent, le déboulonnage des statues liées à des personnages ayant prospéré sur la traite négrière, les questions de retitrage des Dipty Nègres, d'Agatha Christie, toutes ces choses-là qui tout d'un coup envahissent notre espace public, nos débats de manière presque stérile au bout d'un moment parce que ce sont des légitimités qui s'affrontent et on n'arrive pas vraiment à en sortir. Il y a besoin, et tout le monde le reconnaît ça, d'un discours commun, d'une histoire commune, de quelque chose dans lequel tout le monde se reconnaîtrait avec une forme de pensée positive projetée vers l'avenir. Et c'est un peu l'ambition d'un cow-boy dans le coton, c'est ça. C'est-à-dire d'avoir quelque chose qui, objectivement, réconcilie cette espèce d'esprit national qu'on peut avoir. On a tous ce goût fou pour la bande dessinée. En fait, toutes les générations, tous les milieux sociaux, toutes les communautés ont lu Lucky Luke. Hein, on a été biberonnés à ça. Le fait de s'adresser encore à aujourd'hui à tout le monde, c'est une responsabilité monstrueuse pour les auteurs. Et c'est pour ça qu'on s'en empare en traitant ce genre de sujet. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux à faire. Et c'est peut-être les derniers endroits où on peut encore faire s'asseoir tout le monde autour d'une même joie, d'une même excitation et avancer sur des sujets graves.
I love the way she calls my name. I love the way she talks.
parts wild, one part tame. I love the way she walked. Bayou, baby, bayou, my bayou bear. Bayou, baby, bayou, my bayou bear.
Ce n'est pas rien de rappeler que ce Lucky Luke, un cowboy dans le coton, est tiré à 600 000 exemplaires. C'est considérable. C'est le 79e album de cette série créée par le dessinateur Morris en 1946, qui a connu son âge d'or, on le sait, quand Goscinny était au scénario. Mais c'est une série, vous l'avez bien rappelé, Jules, c'est une série humoristique qui parodie les westerns et qui, dans son âge d'or, rendait hommage à l'Amérique parce que on rêvait de l'Amérique. Alors comment rester et dans le registre de l'humour et aborder la question douloureuse de l'esclavage? Dans cet album, c'est vraiment juste à la sortie de la guerre de sécession. Comment aborder le problème de la ségrégation raciale tout en restant dans cet humour typique des aventures de Lucky Luke, avec de la parodie, des clins d'œil, et aussi dans cet hommage du rêve américain qu'on a tous eu, mais qu'on est de moins en moins nombreux à le partager aujourd'hui aussi.
Oui, c'est pour ça que c'était probablement l'album qui le plus difficile qui m'a été donné de faire, mais aussi celui probablement dont je suis le plus fier à la fin. C'est-à-dire que c'était effectivement très difficile de ne pas minorer, de ne pas édulcorer, de ne pas cacher l'histoire. Et en même temps, Lucky Luke, il y a des codes de cette série, tout public. On montre pas de mort, on montre pas de sang dans Lucky Luke. A fortiori, on n'allait pas montrer, dessiner des scènes de torture, de lynchage, de pendaison. Mais il fallait pas que ce soit absent non plus. Donc en fait, on a trouvé un système où on l'évoque, où finalement Lucky Luke qui arrive comme un touriste en Louisiane, qui sent le parfum des magnolias, qui voit la majestuosité la majesté des paysages autour de lui, est d'abord charmé, puis petit à petit, il découvre ce que c'est que la réalité de cette société esclavagiste, et il est horrifié, comme nous, les lecteurs, petit à petit. Et donc ce mythe américain, il a le revers de la médaille, sa face d'ombre, et on sait très bien que les États-Unis, ils sont construits sur un péché originel de l'extermination des populations autochtones, mais aussi évidemment de sa fortune, sa structure a été bâti sur l'esclavage, par ce système de l'esclavage, que ce soit le Nord ou le Sud. C'était une espèce de dialectique. Tous les auteurs qui ont réfléchi sur la question, à commencer par Baldwin, qu'on relit beaucoup aujourd'hui, ont vraiment pointé ça, cette espèce de termite intérieure qui ronge tout le système américain du fait de pas avoir vraiment regardé cette chose-là en face, cette ségrégation raciale qui est vraiment consubstantielle aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est difficile, et pour en garder un aspect de comédie, de gaieté, de joie, on a affronté tous les problèmes. Mais là où j'ai trouvé en fait la solution, j'étais coincé hein, en tant que scénariste, je me suis dit mais ce sont les Dalton qui, parce que Lucky Luke a hérité d'une plantation de coton en Louisiane, lui il se retrouve du côté des grands planteurs blancs, il est bien embêté, il est pris au piège. Les Dalton, ils se disent on va buter Lucky Luke, enfin leur rêve habituel, et puis récupérer le magot. Donc ils débarquent eux en Louisiane, et alors là ils sont complètement paumés, ils se retrouvent dans le bayou louisianais face aux Cajuns, ils sont sûrs que c'est francophone là du Marais, ouais. En fait ce sont des Mexicains. Quand ils se retrouvent face au Ku Klux Klan, ils pensent que c'est une tribu d'Indiens avec des chapeaux pointus. Mais
ou l'art de faire rire avec des sujets très graves. Hein,
voilà, et en fait eux ils sont marrants, ils comprennent rien, et c'est un peu une autre facette de nous-mêmes, parce que nous Européens, bien sûr on aime les États-Unis, mais on connaît pas grand-chose finalement, on s'arrête à un certain nombre de clichés, et moi, pourtant je suis historien de formation, je me suis passionné par ça, quoi. Je me suis passionné pour tout ça, et j'ai découvert énormément en faisant des recherches toutes ces dimensions de cette société du Sud pleine de faux semblants, et ça m'a enthousiasmé. J'espère que c'est ce qui va aussi, en plus que tout, surprendre les lecteurs.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez lu, vous vous êtes documenté, vous avez vu les films de l'époque ou qui a essayé de restituer cette époque?
Oui, parce qu'il y a plein d'images fortes à côté desquelles on ne pouvait pas passer. Évidemment, d'abord le Mississippi, le Delta, c'est Mark Twain. Donc on voit passer Huckleberry Finn et Tom Sawyer qui croisent la route de Lucky Luke.
Vous le rendez hommage.
Il y a des scènes entières qui sont des décalques un peu en comédie, d'autant on emporte le vent. Quand Lucky Luke se retrouve invité à une garden party de grands planteurs blancs, eh bien il y a une case qui est un décalque de Scarlett O'Hara entourée de tous ses prétendants avec sa grande robe à crinoline. Bah là c'est pareil, Lucky Luke il est assis et toutes les donzelles blanches comme ça sont, toutes les oies blanches sont autour de lui en amouré face au cowboy solitaire.
trois cinq fois par an, demander la charité. Pas même si c'est une patate des gratons.
Cette musique-là vous a accompagné, Jules, quand vous étiez en train de travailler le scénario d'un cow-boy dans le coton dessiné par HD et qui vient de sortir.
Oui, cette ambiance, elle est incroyable. Ce sont les Balfa Brothers, c'est un groupe culte de musique cajun. On sent le marais poisseux, les maringouins, hein, c'est les moustiques de Louisiane qui sont là.
Mais je comprends ni le français ni l'anglais, ils chantent en quelle langue ?
Alors ils chantent en français, mais c'est ce français issu du XVIIIe siècle, mais qui est totalement créole, parce que dedans il y a du vocabulaire venu des esclaves, des noirs, il y a du vocabulaire indien, les indiens Houma qui habitaient en Louisiane. Et en fait pour moi, cette chanson créole là, on croirait même la façon dont ils chantent très haut perché, comme ça, enfin dans le nez, on dirait des griots du golfe de Guinée. Et pourtant c'est nos cousins canadiens qui ont été déportés au milieu des marais. Donc c'est magnifique.
Capitaine, capitaine, voyage ton flag, à lancer l'autre voisin. Mandez la charité, aux autres venez nous joindre. Pour les autres, vous venez nous joindre, ouais, au grand bon ce soir.
Et votre rêve américain, Jules, il en est où ? Est-ce que l'Amérique vous fait toujours rêver ?
Moi, je fais partie des gens qui ont été nourris consubstantiellement, bien sûr, par la bande dessinée franco-belge, mais aussi par les dessins animés de Tex Avery, les films des Marx Brothers, ces grandes comédies américaines. Donc Hollywood, finalement, ça a été mon école. Et par la suite, tout l'humour américain extraordinaire, Gary Larson, les Simpsons de Matt Groening, les Muppet Show avant tout, même si on remonte à cette préhistoire. Et donc pour moi, ça fait partie de mon regard. De toute façon, depuis le plan Marshall, la planète suit le tempo et le rythme américain. On le sait, il y avait le volet culturel en fait, où en échange de dollars pour reconstruire l'Europe en miettes après la guerre, il fallait ouvrir toutes les vannes des importations du rêve américain et de la culture. Donc on est tous les enfants de ça.
Il en est où votre rêve américain aujourd'hui, Jules ? Est-ce que les années Trump ont bousculé vos envies d'Amérique, en fait ? Que ce soit de culture américaine, du pays américain ?
Il y a parfois des impulsions qu'on peut avoir. On se dit, oui, j'aimerais bien aller vivre, passer un an, deux ans aux États-Unis. Je l'ai jamais fait dans ma vie. Ça aurait pu être un truc d'étudiante, s'installer à New York ou quoi. Si on ne sait pas si New York est vraiment l'Amérique. Mais en fait, j'ai vraiment envie d'aller maintenant y voir par moi-même. Est-ce que c'est vraiment un monde parallèle de fake news, de faits parallèles, comme ça, qui est en train de basculer dans une espèce de fascisme zombie ? Ou est-ce que finalement, je dirais, cette âme très simple, élémentaire de cœur qu'il peut y avoir, en fait, dans le rêve américain, dans cette relation très simple que les gens peuvent avoir entre eux, a encore des choses à nous apprendre. Je suis pas un Européen qui toise de haut l'Amérique, mais c'est vrai que, en fait, ce goût de la simplicité, qui peut être merveilleux dans certaines occasions par rapport au goût de la complexité qui caractérise l'Europe, en ce moment, c'est encore en train de tourner plutôt coton.
Pour revenir à un cowboy dans le coton, Jules, je sais que ce troisième Lucky Luke que vous signez, c'était pour répondre à une envie que vous aviez au début de réintégrer toutes ces minorités qui ont fait l'histoire du Far West et qu'on ne voit jamais, ni dans les livres, ni dans les films, ni dans les bandes dessinées. Vous avez commencé par la communauté juive, là ce sont les Noirs d'Amérique. Pourquoi cette envie ?
Je laisse à Lucky Luke le rôle d'être un justicier, un redresseur de tort, mais c'est vrai qu'en tant que scénariste, ça me paraissait très très bizarre qu'une communauté aussi importante que la communauté noire n'ait jamais eu voix au chapitre dans l'aventure de Lucky Luke.
Y compris avec Goscinny, donc.
Pendant tout au long de sa très longue existence, ça n'existait pas. Donc c'est un oubli réparé, probablement. On peut l'expliquer de mille façons. À l'époque, ça ne se faisait pas. Il y a cette dimension dramatique et difficile à traiter en comédie. Je trouve qu'aujourd'hui, on en avait suffisamment besoin pour affronter cette question-là, essayer de trouver, avec malice, je dirais, toutes les façons de mettre ça devant le premier plan avec une vraie histoire. Ça me paraissait très simple, très élémentaire. Et puis, il y avait aussi quelque chose, et je sais que Toufi Kakem, on en a parlé, ouais, il y a des années de ça, il y avait la question de Tintin au Congo. Mm-hmm. Faut-il interdire? Faut-il mettre des préfaces? Faut-il laisser en vente libre Tintin au Congo? C'est un débat qui agite les Européens énormément.
Ouais, et qui reste d'actualité, d'ailleurs.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis Tintin au Congo, dans les grandes bandes dessinées patrimoniales franco-belges, il n'y avait pas de façon d'aborder la question des Noirs, des Blancs, la question raciale, à part Tintin au Congo, qui est un album hautement problématique, avec toute la contextualisation qu'on peut lui donner aujourd'hui. Mais pour un lecteur, un enfant aujourd'hui, c'est très important d'avoir quelque chose d'autre à se mettre sous la dent sur ces questions. Et j'espère que celui qui luque là, il permettra de tourner d'une certaine façon la page, d'avancer un petit peu vers un avenir un peu moins enténébré.
Vous n'êtes pas allé aux États-Unis pour préparer ce Lucky Luke ?
Non, alors pour ce Lucky Luke, c'était vraiment, je me suis plongé dans les films, je me suis plongé dans la musique, comme on le disait, dans la littérature ancienne, contemporaine, dans les débats aussi qu'il peut y avoir sur toutes ces questions de représentation, de caricature, cette évocation de l'esclavage. Mais la dernière fois que j'étais allé aux États-Unis, c'était pour présenter justement un cow-boy à Paris, qui racontait l'histoire de Lucky Luke, qui ramenait la Statue de la Liberté à New York, avec des planches de notre album qui sont maintenant exposées au musée de la Statue de la Liberté sur l'île, sur Liberty Island, aux côtés de tout ce qui est de toute la production de la culture populaire autour de la statue.
Le prochain Lucky Luke, du coup ?
Alors le prochain Lucky Luke, il sera très Far West. Cette fois, on va pas le faire voyager dans des terres exotiques. On reste
avec des hispaniques cette fois-ci.
Dans les grandes plaines, dans les cactus. Non, c'est pas. Là, on va pas aborder systématiquement des thèmes de communauté, de choses comme ça. Là, ça sera complètement autre chose. Mais encore, je pense, que ce sera encore un grand sujet qui résonne avec aujourd'hui, parce qu'on peut pas juste se contenter, quand on a des millions de lecteurs comme Lucky Luke, de faire juste du divertissement. On se marre, il y a de l'action, mais on réfléchit.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et ce matin, en compagnie de Jules, qui a signé donc le scénario de ce dernier Lucky Luke, qui vient de sortir, un cow-boy dans le coton. Merci beaucoup, Jules, d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son ce matin Marie-Claire Oumabadi. On se retrouve lundi. Passez une excellente journée, un excellent week-end avec France Culture.
Culture, l'esprit d'ouverture.
Un éclairage quotidien, les enjeux internationaux sur France Culture. Julie Gacon.
Chaque matin, un éclairage sur un fait de l'actualité internationale, le monde exploré à toutes ses échelles, du local au global. 10 minutes avec un chercheur, une chercheuse, pour renouveler notre regard sur le monde, resituer un événement dans sa perspective historique, évaluer sa portée et en imaginer l'avenir.
Des enjeux internationaux, de lundi à vendredi à 6h45 et sur franceculture.fr.
Quand on dit « à présent », c'est comme si on posait deux questions.
À présent, Frédéric Worms.
Où en sommes-nous ? Qu'est-ce qui définit vraiment notre présent ? Ce qui nous arrive, notre moment commun, historique, politique, vital. Mais c'est aussi comme si nous demandions « qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire pour y répondre ? Comment allons-nous partager ce présent ? Quelle est notre action pour répondre à ces dangers ? C'est notre responsabilité. »
À présent, par Frédéric Worms, le vendredi à 21h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Adrien Toffolet. Bonjour.
Bonjour à tous. Top départ cette nuit du deuxième confinement de l'année. Un mois chez soi, le temps de freiner l'épidémie de coronavirus. Les nouvelles règles ont été détaillées hier par le Premier ministre Jean Castex. Règles moins strictes qu'au printemps, comme promis, nous dira Sophie Delpont. Parmi les annonces d'hier, également le soutien à l'économie. 15 milliards d'euros en plus, avec un élargissement des mesures comme le fonds de solidarité qui pourra bénéficier à beaucoup plus d'entreprises. Précision de Laurent Kramer. Et puis, nous ferons le point sur l'enquête sur l'attentat terroriste qui a eu lieu à l'église Notre-Dame de Nice. Hier, le procureur national antiterroriste a donné des précisions sur l'assassin, notamment détails avec Mathilde Vinceneuve. Emmanuel Macron dans les grandes lignes mercredi soir, Jean Castex dans le détail hier soir. Le Premier ministre a décrit les conditions pratiques du nouveau confinement, entré en vigueur cette nuit pour faire face à la deuxième vague de Covid-19. Entouré des ministres de l'éducation nationale, de l'économie, du travail, de la santé et de la culture, il a présenté les mesures de restriction et les dérogations, toutes ces règles qui vont organiser la vie des Français pendant tout le mois, Sophie Delpont.
L'air grave, le chef du gouvernement a commencé par énoncer la liste des restrictions de déplacement.
Il ne vous est pas possible d'aller chez des amis ou de recevoir de la famille à la maison. Il ne vous est a fortiori pas possible de vous déplacer au-delà d'un kilomètre de chez vous en dehors des motifs prévus. Il ne sera pas possible davantage de voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire.
Jean Castex souligne que contrairement au printemps dernier, les parcs, jardins et plages resteront ouverts. Le Premier ministre appelle à télécharger l'attestation de déplacement sur le site internet du gouvernement, disponible aussi sur l'application Tous Anti-Covid, et rappelle l'amende encourue en cas de non-respect de cette règle.
Une amende forfaitaire de 135 euros sera appliquée en cas de non-respect du confinement. Et si vous ne pouvez pas présenter de justificatif alors que vous êtes contrôlé en dehors de votre domicile.
Mais le Premier ministre insiste aussi sur les différences de ce nouveau confinement par rapport à celui du printemps dernier. Les écoles qui restent ouvertes, mais avec le port du masque obligatoire dès 6 ans. Les Français seront-ils aussi disciplinés qu'au printemps? À cette question, Jean Castex répond qu'il croit au bon sens.
Les Françaises et les Français, depuis plusieurs mois, sont très inquiets, fatigués, exténués même par cette crise. Et je les comprends tout à fait. Mais ils ne se trompent pas d'ennemi. L'ennemi, c'est le virus.
Voilà, le Premier ministre donne rendez-vous dans 15 jours pour évaluer les premiers effets de ce nouveau confinement.
Sophie Delpont, pour ce qui est des activités autorisées, notons que les lieux de culte restent ouverts pendant le confinement, mais les cérémonies religieuses sont interdites, sauf pour les enterrements dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec une jauge réduite à 6 personnes maximum. Et puis précision du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui n'était pas présent aux côtés de Jean Castex hier. Les tribunaux restent bien ouverts en France, toute l'activité juridictionnelle est maintenue, alors qu'au printemps elle était limitée aux urgences civiles et pénales, enfin dans les prisons. Pas question de remettre en cause les conditions de vie comme les parloirs ou le travail en détention. Venons-en au volet économique de ce reconfinement. Le gouvernement estime que l'activité va chuter seulement de 15% après avoir plongé de 30% lors du premier confinement, notamment grâce au recours au télétravail qui n'est pas une option, a bien prévenu Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Ce sera d'ailleurs inscrit dans la nouvelle version du protocole national en entreprise qui permettra aux salariés de se retourner contre leur employeur en cas de non-respect de ces règles. Pour ce qui est du soutien à l'économie et aux entreprises, en plus des mesures de prise en charge de chômage partiel, Bruno Le Maire annonce un renforcement du fonds de solidarité. Mécanisme élargi, a dit le ministre, pour que plus d'entreprises puissent survivre à ce nouveau coup dur qu'il aurait porté. Les précisions de Laurent Kramer.
C'est plus de 200 000 entreprises désormais sous fermeture administrative. Le gouvernement propose une compensation de leur perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 euros par mois payés par l'État. Pour les entreprises, jusqu'à 50 salariés. Pour les autres, contrairement au premier confinement, l'État va plus loin et ouvre désormais ce fonds de solidarité à toutes les entreprises ouvertes pendant le confinement, tous secteurs confondus, avec une aide de 1 500 euros par mois jusqu'à 50 salariés pour celles qui perdraient plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Des mesures qualifiées de saupoudrage par les restaurateurs et les indépendants, mais l'élargissement de ce fonds de solidarité représente néanmoins à lui seul 6 milliards d'euros par mois, auxquels s'ajoutent des exonérations de charges, le chômage partiel et la possibilité pour les bailleurs de toucher un crédit d'impôt en échange d'une annulation de loyer, le tout pour un total de 15 milliards d'euros sur un seul mois.
Laurent Kramer, parmi les secteurs qui vont bénéficier de ces ces mesures économiques. Celui de la culture, de nouveau totalement mise à l'arrêt par la crise sanitaire et le reconfinement. Des mesures saluées par les acteurs culturels, mais sans véritable enthousiasme. À l'image d'Audrey Hellouk, secrétaire générale de la FESAC, Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, il faut, dit-elle, voir plus loin que le confinement.
C'est des mesures qu'on accueille favorablement. Maintenant, il n'empêche que ça reste très difficile pour le secteur. On est sur une deuxième vague de confinement. Nos entreprises arrivent, elles sont déjà exsangues, elles sont déjà dans une situation économique très compliquée. Et surtout, et nous, c'est ce qu'on a dit dès le début, mais j'ai envie de dire dès le mois de mars, hein, ça va avoir un effet durable sur l'activité dans le secteur et que la reprise, elle n'est pas pour tout de suite. Là, on n'est même plus sur une notion de reprise ou de relance quand on parlait du plan de relance. Et donc, il faut soutenir dans la durée. Et quand on nous parle d'exonération de charges, bon, très bien, mais l'exonération de charges quand il n'y a pas d'activité, bon, ce qui est intéressant, c'est une exonération de charges quand l'activité reprend. Donc nous, depuis le début, on plaide pour une aide sur au moins, enfin sur 2021, pareil pour l'activité partielle. D'ici la fin de l'année, le dispositif, pour l'instant, est appelé à disparaître, en tout cas les conditions favorables, zéro reste à charge. Ça aussi, on dit qu'il faut le prolonger en 2021, parce qu'on va être dans des situations de stop and go, et on le sait. Là, on revient à la situation du mois de mars, hein, tout simplement. Donc, il faut acter qu'on est sur ce type de situation pour un petit moment.
Propos recueillis par Anne Lamotte. Et en attendant, seules les activités sans public pourront se poursuivre, comme les tournages de films. Pour ce qui est des libraires et disquaires qui demandent à rester ouverts, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, s'y oppose, mais ouvre la voie à la mise en place des commandes en ligne à récupérer devant les boutiques. Au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait 3 morts dans la basilique Notre-Dame de Nice, on en sait plus maintenant sur l'assaillant. Il s'agit d'un ressortissant tunisien de 21 ans, entré en Europe par l'Italie. Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard a fait le point sur l'enquête hier soir. À Nice, les précisions de Mathilde Vinceneux.
Il arrive sur l'île de Lampedusa le 20 septembre dernier, puis débarque à Bari le 9 octobre. On ignore ensuite comment il a rejoint la France. Les enquêteurs retrouvent sa trace à 6h47 hier matin en gare de Nice. Grâce à la vidéosurveillance, on le voit retourner sa doudoune, changer de chaussures, puis se diriger vers la basilique à 400 mètres de là. Il y entre 8h29. L'attaque dure une demi-heure avec un couteau de 30 cm. Il égorge le sacristain. Une femme en blesse une autre qui s'enfuit avant de mourir dans un café. Ce parcours meurtrier prend fin quand 4 policiers municipaux pénètrent dans la basilique. Ils tirent 14 fois. L'assaillant, hospitalisé et opéré, est toujours entre la vie et la mort. Il est inconnu des services de renseignement. Seul indice sur lui, un papier de la Croix-Rouge italienne. Et dans la basilique, un Coran, 2 téléphones et un sac avec 2 autres couteaux.
Ce matin, Emmanuel Macron présidera un nouveau conseil de défense et promet de nouvelles mesures contre le terrorisme islamiste. Hier, il a déjà annoncé le déploiement partout en France de 7000 soldats de l'opération Sentinelle contre 3000 actuellement. Menaces terroristes, menaces sanitaires, 2 crises majeures auxquelles est confronté l'exécutif, au point de présenter un risque pour le système démocratique, avec tous les appels à mettre en place une législation d'exception plus autoritaire de la part de plusieurs politiques dans l'opposition. Pour Nicolas Hervieux, juriste, spécialiste des libertés publiques et enseignant à Sciences Po, le risque terroriste demeure le plus liberticide à terme. On l'écoute.
En période de crise sanitaire, c'est très difficile de maintenir les principes fondamentaux d'une société démocratique, surtout l'exercice de certaines de ces libertés les plus essentielles, comme la liberté de manifestation. Mais pour ce qui est de ces libertés, pendant la crise sanitaire, ce n'est que très temporairement qu'on les suspend totalement pendant le confinement. Au déconfinement, par contre, comme l'avait signifié le Conseil d'État, on peut tout à fait exercer sa liberté de manifestation en respectant les gestes barrières. Donc la crise sanitaire affecte la société démocratique, mais de façon assez temporaire. C'est beaucoup plus préoccupant concernant la crise sécuritaire et l'impact que ça peut avoir sur la façon dont notre débat démocratique se déroule, et aussi l'ensemble des mesures qui sont proposées ça et là et qui bien souvent donnent lieu de courses à l'échalote liberticide pour savoir quelle est l'idée la plus farfelue ou violente que l'on sortira pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et c'est là où réside principalement la menace pour notre démocratie. Trouver le bon équilibre entre une menace ferme, la lutte contre une ferme contre une menace comme le terrorisme, islamiste en particulier, et la préservation des principes de l'état de droit.
Nicolas Hervieux, invité du journal de 22h de France Culture. La météo avec une France coupée en deux, au nord de la grisaille, au sud du soleil. Quelques gouttes de pluie même à prévoir près des côtes de la Manche. Les températures vont varier entre 7 et 14 degrés ce matin et 14 et 24 cet après-midi. 6h40 sur France Culture, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Adrien Toffolet.
L'imprimerie reste un maillon essentiel de la fabrication des journaux. Elle a donné lieu à une véritable culture ouvrière d'excellence.
Oui Adrien, et en bout de chaîne, il faut noter que nous baignons en permanence dans un univers de lettres, sans être forcément conscients de l'effet que produit la forme de ces lettres sur notre réception du message. Pourtant, nous avons tendance à accorder spontanément des valeurs morales et pas seulement esthétiques aux différentes polices de caractère. Nous veillons soigneusement, par exemple, à éviter le Glacial Times New Roman pour une lettre d'amour ou le puéril Comics en MS pour un CV. Cette perception intuitive trouve un écho dans les termes techniques qui désignent d'une façon anthropomorphique les différentes parties et les formes des lettres. On parle du corps, de la panse, du jambage, de la face d'un caractère et une face grotesque, simiesque, ne signifiait pas pour les typographes du 19e siècle un visage simiesque, mais certaines polices sans empattement, c'est-à-dire sans ces petits traits qui élargissent la base des lettres et leur assurent comme une stabilité supplémentaire sur la ligne de pied. Simiesque, la métaphore désigne d'ailleurs les gestes et les mouvements que fait le typographe en travaillant. C'est pourquoi dans l'argot du métier, on l'appelle un singe. Les éditions Le Mot et Le Reste ont réédité l'ouvrage célèbre d'Eugène Boutmy sur la parlure des ouvriers du livre, de la presse et de l'affiche, le dictionnaire de l'argot des typographes, paru en 1883. Avant d'entrer dans ce lexique fleuri, il faut distinguer les différents métiers qui concourent à l'impression d'un texte, le prote, le metteur en page, le pactier et le corrigeur. Le prote du grec protos, premier, était au 1er siècle de l'imprimerie un savant connaissant l'hébreu, le grec, le latin et d'autres langues vivantes pour diriger les opérations. Il doit également connaître les autres phases de l'impression. Le metteur en page organise et aère la composition. Le paquetier fait les lignes qu'il dispose en paquet. Il ne manque jamais de copies et participe largement aux honneurs. Le jour où l'on arrose une réglette, nous dit Eugène Boutmy dans sa copieuse préface en renvoyant à son dico, lorsqu'un paquetier passe metteur en page, il manquerait à tous ses devoirs s'il ne régalait son équipe. Ça c'est pour l'arrosage, sinon la réglette c'est une petite lame de bois ou de métal qui sert à justifier les pages en longueur. Vient enfin le correcteur, l'âme damnée de l'écrivain. Il doit avoir l'œil typographique, tout comme le prote, pour saisir au vol ces fautes bizarres, singulières, qui font le désespoir de l'auteur et la risée du public lettré. Et il doit même, au-delà de l'orthographe ou de la ponctuation, redoubler la lecture du regard par celle de l'esprit, là où l'auteur, emporté par sa pensée, a lu non pas ce qui est imprimé, mais ce qui aurait dû l'être. D'une manière générale, souligne Eugène Boutmy, et c'est encore vrai aujourd'hui, à l'heure de la numérisation, les typographes aiment le progrès, les idées nouvelles. À l'époque où ils parlent, on a pu les voir successivement saint-simoniens, fourriéristes, proudhonistes, marxistes, proudhoniens. Ce sont des typographes qui ont commencé la révolution de 1830, écrit-il. Leurs successeurs appartiennent presque tous à l'opinion républicaine. L'argot des typographes, à la fois technique et communautaire, qui valait permis de séjour dans la profession, a copieusement arrosé la langue populaire. Ainsi, l'expression « enfant de la balle » désignait-elle celui dont le père était lui-même typographe et qui avait grandi dans l'atmosphère de l'atelier où, avant l'usage des rouleaux, on se servait pour ancrer les formes de tampons ou balles. Casser sa pipe, chercher la petite bête, ça c'est pour les correcteurs. Avoir mal aux cheveux, cliché pour celui qui répète les mêmes arguments. Poivreau, du poivre que certains débitants mêlaient à l'eau de vie pour obtenir un breuvage sans nom capable d'enivrer un bœuf, tout cela provient de l'argot des typographes. Aujourd'hui, les héritiers de cette noble tradition de l'imprimerie à l'ancienne subsistent dans les ateliers de taille douce et de lithographie où la dessinatrice France Dumas est allée promener son crayon questions et ces questions naïves. Rappelons que le naïf était autrefois synonyme de patron chez les typos. L'ouvrage illustré, agrémenté de ses commentaires, est publié chez Rive-Neuve sous le titre « Impressions d'atelier ». Ils sont 12 en tout. On y voit dans le détail les amoureux de la belle estampe, création collective où l'artiste intervient à chaque étape. Odeur d'encre, pierre polie ou grainée, presse ajustée dans l'effort. Je ne citerai que l'atelier d'Aimé Mag qui avait tous les artistes sauf Picasso. – 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
– Bonjour Jacques.
– Au sommaire aujourd'hui, le nouveau leitmotiv de l'économie chinoise, la circulation duale, on va tout savoir.
– Oui, cette semaine à Pékin ont eu lieu ce qu'il faut considérer comme des préparatifs déjà pour le 20e congrès du Parti communiste chinois prévu pour dans 2 ans. 370 membres du PCC réunis en plénum à huis clos pendant 4 jours ont acté des grandes lignes de la feuille de route économique et sociale pour 2021-2025. Dans un contexte qui n'aura jamais été aussi incertain, certes, coronavirus, guerre commerciale avec les États-Unis qui reconduiront ou pas Donald Trump mardi à la présidence, la Chine peut néanmoins encore s'appuyer sur des chiffres de croissance que lui envient tous les pays du G20, près de 5% au troisième trimestre, 2% sur l'ensemble de l'année. C'est donc fort de ces chiffres que Xi Jinping prépare la relance autour donc de cette notion de circulation duale qui vise à développer en priorité le marché intérieur. Bonjour Alizée Pornet. Bon. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste à l'AFD, l'Agence française de développement. Alors quand est-ce qu'il a émergé ce concept de circulation duale et pour exprimer quoi ?
C'est une bonne question puisqu'on pourrait croire en effet que c'est un nouveau concept qui est porté par Xi Jinping ici, alors qu'en réalité il s'agit d'un nouveau terme pour finalement confirmer une continuité dans les différents modèles qui ont été portés par la Chine pour son économie. Donc ce terme en fait est apparu pour la première fois en mai lors d'une réunion du comité permanent. Xi Jinping parlait alors à l'époque, je cite, d'une formation progressive d'une nouvelle configuration de développement fondée sur donc une double circulation, la circulation intérieure et la circulation internationale qui se complètent l'une et l'autre.
Et avec une économie qui pour l'instant a été trop dépendante de la circulation quand même internationale et qu'il faut donc réguler. C'est vrai que la Chine est consciente depuis longtemps combien elle est dépendante de ses exportations. Elle avait pris certaines mesures déjà après la crise de 2008.
Tout à fait. En fait, cette circulation intérieure et internationale témoigne bien en ce changement de paradigme que la Chine doit faire pour faire transiter son modèle vers une économie plus développée. En effet, la circulation internationale évoque ce que vous disiez, c'est-à-dire la dépendance de sa croissance au commerce international, et la circulation intérieure davantage son cycle domestique qui repose aussi bien sur donc la production, la distribution et la consommation de ses biens et de ses services. Et en termes de sémantique, ce qui est important, c'est que donc la circulation évoque aussi ce qui s'était passé à la fin des années 80, c'est-à-dire un nouveau concept de grande circulation internationale qui prônait notamment un renforcement des exportations, alors que là, on cherche à rééquilibrer celles-ci dans le modèle.
Exportations qui quand même continuent à exploser. Les exportations chinoises, elles ont augmenté de près de 10% en un an. Bon, il s'agit aussi beaucoup de protection contre le Covid-19. Or, on sait que les clients de la Chine travaillent aussi à relocaliser cette production. Donc, le concept de circulation duale, ce serait une manière de parler aujourd'hui, comme disait à l'époque, on disait l'innovation indigène sous Hu Jintao. Au début de Xi Jinping, on parlait évidemment de Made in China. Là, il s'agit aussi, vous nous disiez Alizée Pornet, de tout miser sur le marché intérieur et la consommation intérieure. Encore faut-il que le pouvoir d'achat des ménages chinois le permette.
Tout à fait. En fait, il y a plusieurs invariants de l'économie chinoise qui demeurent peut-être des obstacles pour ce nouveau concept d'économie duale, puisque la bonne articulation entre la circulation intérieure et la circulation extérieure reposera bien sûr sur la compétitivité aussi des exportations, qui aura des incidences probablement sur la consommation qui sera au centre maintenant de ce modèle. Donc, pour le dire autrement, en fait, il s'agit de trouver un bon équilibre de tout ça, qui aussi repose sur la confiance des investisseurs étrangers, puisque aujourd'hui cette économie duale peut poser la question de l'ouverture ou de la fermeture de l'économie chinoise à l'avenir. Et aujourd'hui, les messages qui passent, en tout cas, puisque ce concept n'est toujours pas défini en soi, puisqu'on attend le 14e plan quinquennal, beaucoup d'économistes chinois essaient d'apporter un peu de substance à ce concept et posent notamment la question de la confiance des investisseurs à l'avenir. Et aujourd'hui, les messages qui passent, c'est de dire que l'économie chinoise essaiera d'attirer des investissements étrangers dans des secteurs assez stratégiques de son économie, donc ceux que vous citiez, des segments plus technologiques, qui permettraient à l'industrie de transiter vers la production de biens à plus haute valeur ajoutée.
Donc on veut les encourager d'un côté et d'un autre côté on les contrôle puisqu'une loi vient d'être adoptée, là il y a 10 jours, une loi sur le contrôle des exportations et des investissements étrangers, avec donc la critique formulée par certains de dire mais ça va les faire fuir, or la Chine en a encore besoin de ces investissements.
Tout à fait. Tout repose donc sur la confiance. Et on voit que même s'il y a cette loi qui est passée sur le contrôle des exportations et des investissements, depuis quelques années, la Chine essaie un petit peu de renforcer ce climat des affaires, notamment pour travailler cette confiance à l'international. Et ils ont notamment desserré un petit peu la possibilité pour des investisseurs étrangers d'accéder au marché intérieur, notamment sans passer par nécessairement des joint ventures. Donc c'est ce qui se passe notamment dans le secteur de l'automobile, où cette joint venture ne sera pas nécessaire pour attirer le marché en 2023. Néanmoins, il y a un sujet principal qui est comment permettre de garder cette attractivité du marché intérieur pour des investisseurs étrangers, mais aussi que des investisseurs étrangers garantissent que leur insertion dans le marché intérieur servira le marché intérieur chinois. Et là, on voit qu'en termes de stratégie, des entreprises étrangères essaient de développer ce qu'ils appellent « en Chine pour la Chine », c'est-à-dire donc de distribuer des produits qui sont fabriqués en Chine pour le marché chinois.
Et alors qu'encore une fois, est-ce que tous les Chinois ont les moyens de consommer ? Comment se fait aujourd'hui l'arbitrage entre épargne et consommation ?
C'est une question très compliquée, surtout dans ce climat d'incertitude aujourd'hui, qui est que, comme n'importe quel consommateur, on se pose la question, est-ce qu'il faut épargner pour un petit peu préparer l'avenir qui est très incertain, ou au contraire consommer pour aussi soutenir l'économie, sachant que le gouvernement chinois porte souvent ce verbatim auprès de sa population. Donc le marché intérieur chinois est quand même un des atouts de son économie, puisque avec 1,4 milliard d'habitants, c'est un consommateur potentiel important. Et surtout, au sein de cette population, il y a 400 millions de classes moyennes. Donc c'est là où réside surtout la croissance potentielle de cette consommation. Néanmoins, il y a plusieurs aspects structurels qui vont être clés pour voir comment la consommation pourrait croître. Ils sont de divers ordres, ils sont sociaux, c'est-à-dire essayer d'augmenter la couverture sociale pour justement essayer d'accompagner ces citoyens dans leur arbitrage entre épargne et consommation. Donc, c'est-à-dire essayer d'améliorer notamment les pensions de retraite, mais aussi la capacité pour les étudiants de financer leurs études. Et plus généralement, c'est aussi l'accès à la liquidité, c'est-à-dire au financement et notamment au prêt à la consommation, ce que ça la Chine a fait depuis 2014.
Alors les Chinois d'ailleurs pour consommer ont l'équivalent, c'est l'incitation qu'on a trouvée en Chine, du Black Friday pour les Américains, et c'est bientôt, c'est le 11 novembre, journée des célibataires. Je sens déjà que ça ne plaît pas à Hervé Gardette qui est entré dans ce studio. C'est pas très transition compatible, mais justement, puisque ce plénum du Parti communiste chinois qui vient de se terminer à Pékin est censé préparer le 14e plan quinquennal 2021-2025, est-ce qu'il sera très différent du précédent, et est-ce qu'on voit déjà se dessiner ce que Xi Jinping a promis, c'est-à-dire une économie plus verte, des efforts concentrés sur les secteurs qui l'aideront à atteindre la neutralité carbone avant 2060, c'est ce qu'il a promis.
Oui, on attend beaucoup ce 14e plan quinquennal sur les aspects environnementaux, et c'est notamment ce que Xi Jinping a commencé à indiquer lors de son discours aux Nations Unies le 22 septembre, en réaffirmant la volonté de la Chine de transiter vers un modèle plus soutenable. Il y avait déjà cet aspect dans le 13e plan quinquennal, donc celui qui allait de 2016 à 2020, puisque la réduction de la pollution était déjà un élément clé de ce programme. Et dans les premières indications que l'on voit sortir, notamment suite donc ce 5e plénum qui est, comme vous le rappeliez, un élément très important puisque c'est la dernière grande réunion avant le 14e plan quinquennal, il y a une réaffirmation en tout cas de l'environnement pour l'économie chinoise, et il rappelle notamment l'objectif d'atteindre le pic des émissions en 2030. pour ensuite transiter vers une économie moins carbonée. Néanmoins, ça implique donc une mise en phase des différents acteurs chinois, donc les provinces mais aussi les entreprises, qui ont encore aujourd'hui dans leur mix énergétique une grande part carbonée.
Voilà, donc les provinces vont devoir se mettre au diapason et ça peut prendre du temps. Peut-être que ce secteur des économies, de l'économie décarbonée peut permettre de tirer l'économie chinoise vers l'innovation. C'est devenu un objectif politique presque doctrinal, l'innovation économique.
Tout à fait. Ça a encore été rappelé d'ailleurs dans le comité du 5e plénum qui est sorti aujourd'hui. Et en fait, l'enjeu sous-jacent, bien sûr, de miser tout sur l'innovation, c'est les objectifs de croissance pour la Chine. Puisque comme vous le rappeliez, la Chine va être une des seules économies à connaître une croissance positive. Et cependant, c'est la première fois depuis qu'elle publie ses chiffres de croissance qu'il n'y a pas de cible de croissance. Même si la nouvelle normalité que Xi Jinping rappelait, c'est-à-dire l'absence d'une croissance à deux chiffres, est fixée la croissance chinoise annuelle autour de 6%, aujourd'hui, le 14e plan quinquennal devrait porter aussi une cible de croissance qui serait plutôt autour de 4%. Mais ceci, pour le moment, est juste porté par les commentateurs de ce plan quinquennal et n'a pas encore été acté par les autorités.
Merci beaucoup, Alizée Pornet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste à l'Agence française de développement. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'élection américaine, un enjeu mondial. Sur France Culture, une programmation exceptionnelle consacrée à l'événement.
This guy will close down the whole country.
Everybody knows he's a liar.
Reportage, rendez-vous de la rédaction de France Culture. Magazine, toutes les disciplines au rendez-vous. Documentaires et podcasts. Portrait des États-Unis d'aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle. Et le 3 novembre, une nuit américaine. Pour suivre en direct la progression et l'analyse du scrutin. L'élection américaine, un enjeu mondial. Sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h, bientôt 57, et qui est-ce que vous retrouvez pour les matins de France Culture ce matin? Eh bien c'est vous, Hervé Gardette, bonjour.
Bonjour Julie Gacon, vous avez sous-entendu tout à l'heure que je n'aimais pas les célibataires, c'est ça?
Non, pas du tout, que vous n'aimiez pas les Black Friday.
Ah d'accord.
Voilà, okay. Je me trompe pas. Bon, vous avez, Hervé, pour votre humeur du jour ce matin, fait la liste de vos renoncements, ça commence bien.
Oui, le confinement. J'entends par là le mot même de confinement. Nous avait déjà pris de court. Il fallut un certain temps avant que mon smartphone réussisse à le mémoriser sans faire de faute d'orthographe. Puis il y eut le déconfinement. Nouveau flottement. Je me rends compte en l'écrivant que mon traitement de texte le surligne toujours en rouge, comme si ce mot n'existait pas, ce qui aurait peut-être dû d'ailleurs nous mettre la puce à l'oreille quant à la réussite, ou plutôt l'échec, de cette procédure. Et voici désormais qu'apparaît le reconfinement. Pas davantage accepté par mon ordinateur, ce qui n'augure rien de bon, sauf à y voir un signal pour nous inciter à adopter une toute autre attitude que celle qui fut la nôtre au printemps. J'ai donc décidé, pour inaugurer cette période propice aux résolutions, de faire la liste de mes renoncements, histoire de ne pas avoir à revivre ce qui ressemble, comme l'a titré hier en une le journal Libération, à un jour sans fin. Je ne referai pas d'apéro en ligne avec mes copains, je n'ai pas envie de regrossir. Je ne laisserai pas repousser ma moustache. Je ne retenterai pas de faire du pain, simple question de respect à l'égard de la corporation des boulangers. Je ne relirai pas pour la énième fois le premier chapitre d'Ulysse de James Joyce avant de renoncer à aller plus loin. Je ne répondrai pas à mes amis qui m'envoient sur ma messagerie WhatsApp des dessins rigolos sur le confinement en faisant comme si je trouvais ça drôle. En fait, ça ne me fait pas rire du tout. Je ne me reposterai pas à ma fenêtre pour applaudir à nouveau les soignants, sauf si ça leur fait toujours du bien. Surtout, je ne retomberai pas dans le panneau qui consista à nous faire croire que le monde d'après serait bien meilleur que le monde d'avant, car de ça, je ne m'en remettrai pas.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Alors ça n'est pas Guillaume Erner ce matin, c'est Hervé Gardette, puisque c'est mon nom, il est 6h59 et au sommaire de ces matins, programme bien chargé, puisqu'à 8h-20, nous serons en compagnie du chercheur Benjamin Houdet, spécialiste des questions de renseignement, pour évoquer le rôle justement des services de renseignement et leurs éventuelles failles après le nouvel attentat qui a coûté la vie à 3 personnes hier à Nice. Vous savez que l'assassin a pu être interpellé. Il n'était pas, semble-t-il, connu des services de renseignement. À 8h20, vous retrouverez là, cette fois-ci, Guillaume Erner, qui s'est entretenu avec le grand écrivain américain Daniel Mendelsohn. Il sera bien sûr question de littérature à propos de son dernier livre, mais aussi de politique à quelques jours de l'élection présidentielle américaine. Et puis, à 8h50, à quoi pensez-vous un peu exceptionnel, puisque nous serons en compagnie d'Antoine Gallimard, le patron des éditions du même nom, et ce alors que les librairies sont à nouveau contraintes de fermer en raison du confinement. Voilà, tout ça, c'est le programme jusqu'à 9h pour l'heure sur France Culture, il est pile 7h.